Eh bien, les amis, mais quel e-track shoot! Oh là là, je sais pas quoi vous dire. Quelle émotion! Émotion incroyable. On se retrouve après 2 mois, 2 mois d'arrêt. Incroyable, insoutenable, insupportable, ce que vous voulez. Et on peut enfin revenir dans notre étude. Et alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait décidé de s'arrêter sur du suspense. Eh oui! Parce que on avait terminé notre dernier cours avant la pause en ouvrant la chassidoute avec le Baal Shem Tov. Avec Rabbeinu Israël Baal Shem Tov, je vous rappelle, au cas où vous vous rappeliez plus, nous étudions le dimanche matin l'histoire de la Kabbalah. Et nous sommes arrivés au XVIIIe siècle. Nous sommes arrivés au XVIIIe siècle et nous ouvrons une page qui va... Alors... Je ne sais pas si on va faire 2 cours d'affilée pour bien englober la chassidoute, mais ça veut dire avancer dans le temps et ensuite revenir en arrière, parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été faites au même moment, ou alors on garde un fil chronologique et c'est pas grave si on parle de la chassidoute maintenant et dans 2 cours on reparlera de la chassidoute, parce que les générations ont évolué. Quoi qu'il arrive, eh bien nous prierons pour Yehudit Rachel Batsara. Très bien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous reprenons là où nous étions arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire après l'avènement du début de la Chassidoute avec Rabbeinu Israël Baal Shem Tov. Alors, on a parlé du Baal Shem Tov, je vais donc pas en reparler, mais le Baal Shem Tov n'a pas créé de mouvement. Je rappelle, histoire de se mettre bien ça dans la tête, en quoi la Chassidoute fait partie de l'univers de la Kabbalah? Car il faut le dire tout de suite, peut-être que comme ça c'est mieux, voilà. Faut le dire tout de suite, la Chassidoute n'est pas à proprement parler de la Kabbalah. Elle utilise le langage de la Kabbalah, elle utilise la Torah de la Kabbalah, mais en fait, la Chassidoute prend la Kabbalah, qui, comme vous le savez, ne parle que de collectif, ne parle que de Klal Israël, de Géoulat Israël, eh bien la Chassidoute va prendre toute cette Géoula et va la traduire au niveau de l'âme individuelle. Ce qui fait de la Chassidoute pas vraiment de la Kabbalah, puisqu'elle ne parle plus du Klal, mais elle parle de chacun d'entre nous, à l'individu de chacun d'entre nous. On avait expliqué à l'époque, quand on a fait le cours du Baal Shem Tov, que c'était totalement nécessaire. Tant au niveau moral, le peuple juif, il avait le moral dans les chaussettes, que également au niveau de l'ambiance spirituelle qu'il pouvait y avoir dans le monde. Le XVIIIe siècle marquait le début de l'existentialisme, où l'homme a envie de retrouver une importance en tant qu'individu. Et donc, il est tout à fait nécessaire que Akadosh Baruch Hu nous envoie des sages qui vont pouvoir expliquer ce ressenti, ce besoin, mais à la mode juive. Ben, ça a donc, c'est ce que va nous faire Rabbi Israël Baal Shem Tov. Mais le Baal Shem Tov, comme je l'ai dit, ne crée pas de mouvement. À aucun moment, lorsque le Baal Shem Tov meurt, il y a Tnouat HaChassidut, le mouvement des Chassidim n'a pas encore commencé. Car en vérité, si on veut commencer à parler de mouvement, il va falloir attendre son deuxième élève. Oui, je parle de son deuxième élève, car Rabbeinu Israël Baal Shem Tov va avoir 4 véritables élèves. Mais il y en a 2 qui sont beaucoup plus connus et 2 un peu moins connus. Par exemple, quand on va parler de Rabbi Yaakov Hassid, il est très très peu connu. Il est très très peu connu. Par contre, il va donner naissance plus tard à une chassidoute dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui s'appelle la chassidoute de Vijnitz. Mais c'est plus ou moins la seule chassidoute qui va sortir de Rabbi Yaakov HaChassid. Après, quand on va parler de Rabbi Menachem Nachum Mitterbski, là aussi, on a des petites chassidouillottes qui sont assez peu connues. Et donc, ce ne sont pas les 2 qui vont véritablement marquer un véritable tournant. Il y a le premier élève. Le premier élève de Rabbeinu Israël Baal Shem Tov s'appelle Rabbi Menachem Nachum Mitchernobyl. Et là, c'est là que nous commençons notre étude, les amis, avec Rabbi Menachem Nachum Mitchernobyl. Alors, c'est qui cet homme-là? Alors, resituons, je vous rappelle, nous sommes dans la première moitié du XVIIIe siècle. Rebbe Nachum Nachum Mitchanobyl va naître en 1730 et il est particulièrement connu pour être, semble-t-il, parce que c'est pas évident, mais il semblerait qu'il est le fils de Rabbi Tzvi, qui n'est autre que Rabbeinu Adam Baal Shem Tov. Et c'est pas très clair tout ça, non, c'est pas du tout clair, mais il semblerait que Rabbi Adam Baal Shem Tov soit le rave du Baal Shem Tov, et que donc Reb Menachem Nachum Mitchernobyl soit en fait le Talmid Chaver du Baal Shem Tov, soit le fils de son maître et avec qui il va étudier, il est un peu plus jeune, et donc, eh bien, il est le successeur sans véritablement l'être. Reb Menachem Nachum Mitchernobyl va donner naissance à des très très grands noms de la Chassidoute, mais c'est sa Torah particulièrement à lui qui va avoir une influence. Et sa Torah va être la Torah du Bitoul. La Torah du Bitoul. C'est lui qui va mettre cela en place. D'abord et avant tout, pour lui-même, puisqu'il va accepter, lorsque le Baal Shem Tov désignera son autre élève comme successeur, et on va en parler juste après, le Maguide de Meserich, eh bien, il va se annuler devant le Maguide de Meserich. Il va s'annuler et laisser la place au Maguide. Et la Torah de Rab Nachum, Menachem Nachum Mitchernobyl, c'est la Torah du Bitoul. Et ça, c'est l'un des grands principes de la Chassidoute que nous allons évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire de l'histoire et également parler un petit peu. On n'a évidemment pas le temps toujours de rentrer en profondeur dans les choses, mais vous devez quand même savoir quelles sont les véritables premières bases, si vous voulez, de la Chassidoute. Eh bien, Remenachem Nachum Mitchernobyl, c'est Bitoul. Ce qu'on appelle Bitlayesh en chassidique, ou alors en hébreu, Bitoul Ayesh. C'est-à-dire s'annuler complètement devant ton rave, devant le créateur. Mais comme on l'a dit, celui qui va véritablement transformer l'enseignement du Baal Shem Tov en mouvement et qui va mettre en place des lieutenants, c'est Rabbeinu Agadol, Rabbeinu Dov Ber HaMagid Mimezerich. C'est lui qui va véritablement poursuivre, eh bien, l'œuvre du Baal Shem Tov et va la faire grandir. Alors, HaMagid Mimezerich, mais qui c'est le Maguide de Meserich? Qu'est-ce qu'on a à raconter sur lui? Tout d'abord, eh bien, la question est toujours la suivante. Vous savez, est-ce que on m'a raconté, j'ai entendu ça ce Shabbat, d'ailleurs je trouvais ça très très beau, je me suis dit, ah ben tiens, je vais le ressortir demain matin, parce que je savais qu'on allait parler du Maguide, donc je me suis dit, ça c'est important. Vous savez ce que c'est le Yichus? Le Yichus, c'est quand on a un arbre généalogique très important. Eh bien, on m'a dit hier, le Yichus, en fait, c'est comme un gros gros chèque, où il y a plein de zéros et un 1. Mais toute la question est de savoir où tu mets le 1 et où tu mets la virgule. Parce que tu peux avoir un 1 devant et plein de zéros derrière. Et à ce moment-là, ben, tu as un très très gros chèque. Et le Yichus, c'est quand tu te revendiques et que tu hérites de quelque chose d'énorme et tu le mets en pratique. Mais ça peut être aussi simplement un nom. Et toi, tu ne revendiques pas du tout, ou alors tu ne réalises pas du tout la portée de ce nom. Eh bien, les amis, pourquoi je parle de Yichus ici? Eh bien, tout simplement parce que l'histoire du Maguide de Meserich commence lorsqu'il a 5 ans et que la maison familiale brûle. La maison familiale brûle, mais c'est terrible! Et alors que, heureusement, les membres de la famille ont réussi à sortir de la maison et personne n'a été tué, eh bien, sa mère est en train de pleurer. Et le petit Dovber, il dit, maman, pourquoi tu pleures? C'est des murs, c'est du bois, on va reconstruire. Et sa mère lui dit, mais enfin, tu comprends pas, on avait dans notre maison un arbre généalogique qui nous rattachait de père en fils jusqu'à Rabbi Yochanan Assandlar. Rabbi Yochanan Assandlar, extraordinaire! Tanaïm. Et à ce moment-là, le petit Dovber lui dit, maman, ne t'inquiète pas, je te promets que de moi commencera un nouvel arbre généalogique. Et effectivement, je vous montre ici l'arbre généalogique, Louach HaChassidut. C'est plus ou moins tout ce qui va sortir du Maguide de Mezrich. Alors, le Maguide de Mezrich commence son épopée toranique, pas dans le monde de la Chassidoute. Il va étudier de manière très classique, j'ai envie de te dire, et il va devenir très rapidement un érudit de Torah Taniglé. Et d'ailleurs, on entend déjà parler du Baal Shem Tov à ce moment-là. Le Maguide de Mezrich, eh bien, il naît entre 1690 et 1710, c'est pas très clair, et il mourra en 1772. Ça veut dire qu'il est vraiment un contemporain presque du Baal Shem Tov. Il est un petit peu plus jeune, une vingtaine d'années de moins que lui. Et il entend déjà parler, on entend parler du Baal Shem Tov. On a dit, il n'a pas fait un mouvement, mais les gens parlent. Et eh bien, il est très, très, très critique par rapport à tout ce qu'on entend sur le Baal Shem Tov. Il fait des miracles et tout ça. Il est très critique. Pourquoi il est très critique? Parce que pour lui, c'est pas ça qui détermine mon lien avec Dieu. C'est pas les miracles, c'est la Torah. Vous savez, on pourrait dire un véritable élève du Gaon de Vilna presque. Et il décide de vérifier par lui-même. Et ça, c'est grand. Parce que nombreux sont les gens qui se sont fiés et qui se fient encore aujourd'hui pour plein de choses au on dit. Et on va pas vérifier. Eh bien, lui, il décide d'aller vérifier. Et il va chez le Baal Shem Tov pour voir un petit peu, mais c'est qui ce bonhomme? Alors, il y va. Il y va, il passe là-bas quelques jours, et je vais vous dire tout de suite, il est extrêmement déçu. Extrêmement déçu parce que d'abord, il n'est pas reçu chez le Baal Shem Tov tout de suite, et à chaque fois, le Baal Shem Tov le reçoit uniquement le soir, et c'est pour parler de lui, avec lui, de tout et de rien. Il est où la Dvar Torah? Et au bout de deux soirs où le Maguide est arrivé chez lui et il n'a pas kiffé, le troisième soir, il décide de simplement aller lui dire au revoir et il dit, bon, finalement, le Baal Shem Tov, c'est pas ouf. Et lorsqu'il va le voir pour la troisième fois, le Baal Shem Tov lui dit, alors, comme ça, tu es déçu? Et il dit, ouais. Alors, il dit, ok, maintenant que je commence un petit peu à voir qui est le bonhomme. Prends ce passage du Zohar et explique-le-moi. Et le Maguide, qui a étudié aussi la Kabbalah, c'est-à-dire c'est un Gadol Beniglé, mais comme un véritable élève du Gaon, il a aussi étudié la Kabbalah, mais pas en mode chassidoute. Et il lui lit la partie du Zohar, et le Baal Shem Tov lui dit, tu as très bien lu, tu as même très bien compris. Maintenant, il est temps que tu comprennes à quel point tu n'as rien compris. Et le témoignage du Maguide nous raconte que lorsque le Baal Shem Tov s'est mis à lire le Zohar, le feu s'est déclaré dans la maison, mais il ne brûlait pas. Les anges se sont mis à danser tout autour d'eux. Et en fait, ils ne lisaient pas le Zohar et l'expliquaient, mais il était en train de vivre le dévoilement divin par le Zohar. Et il comprend à ce moment-là que la chassidoute, eh bien, ce n'est pas l'étude des textes, mais c'est vivre la relation avec Dieu. Ah! Et là, c'est tout un programme. Parce qu'à partir de ce moment-là, le Maguide de Meseritch, Dovber de Meseritch, reste à Mejibouge, avant de repartir beaucoup plus tard à Meseritch, commencer à enseigner, mais il reste avec le Baal Shem Tov, Slicha, et il va devenir son véritable élève. On sait de quel passage du Zohar il s'agit. Oui, je l'ai quelque part. Attends, faut que je le retrouve. Iné. C'est dans la paracha, c'est le Zohar sur la paracha de Vayetse, sur le Chalom Yaakov. C'est-à-dire, Inyan HaChalomot VeHaMalachim. D'accord? C'est cette partie-là du Zohar. Bekitsour, donc le Maguide de Meseritch, ça y est, maintenant qu'il s'est rempli et qu'il est devenu le successeur, eh bien, il va tout simplement commencer à mettre en place ses pions, ses lieutenants, ses généraux, appelez-les comme vous voulez. Car pour lui, il est évident que le message de la chassidoute ne peut pas être porté par une personne. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a compris que la chassidoute, c'était vivre la relation avec Dieu. Or, de la même façon que nous sommes différents, eh bien notre façon de vivre mon lien avec Dieu ne peut pas être le même. Et c'est là la base, les amis, de toutes les différentes écoles chassidiques, ce qu'on va appeler les cours chassidiques. Quelle est la différence entre Slonim, Karlin, Rougin, Radzin, Chans, Gour, au-delà de simplement d'être des noms d'endroits où ils habitaient? Le style chassidique diffère dans la mida que j'ai envie de mettre en avant. Quelle est la qualité première que j'ai envie de mettre en avant dans ma relation avec Dieu? En fait, ce Maguide semble avoir consulté le Baal Shem Tov lorsqu'il fut très malade. C'est pas ça, ça n'a pas de preuve. On raconte ça, mais c'est marqué nulle part Bedovrut à Maguide. Donc je sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Le Oder. Quoi qu'il en soit, le Maguide donc décide de lancer véritablement. Hop là. Je branche. Voilà. Ça y est. Le Maguide décide donc de mettre en place ses généraux, de mettre en place ses différents élèves qui vont chacun avoir une influence différente. Le premier d'entre eux, évidemment, qui va être le premier de ses élèves, bon bah, qu'est-ce que je te dise? C'est son fiston. Ah bah oui. Qui est le fils du Maguide de Mezenich? Il s'appelle Rabbi Avraham Amalach. Alors, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Rabbi Avraham Mimezrich, mais tout le monde l'appelle Rabbi Avraham Amalach. Alors, d'abord, simplement, la Torah de la Chassidoute, on a un grand problème parce que, au départ, elle n'est pas écrite. Si tu veux étudier aujourd'hui les écrits du Baal Shem Tov, on l'avait dit, on n'en a pas. Il y a aujourd'hui le livre qui s'appelle, qui est là, je peux vous montrer. Hop là. Hop là. On a les écrits qui s'appellent Keter Shem Tov, du Baal Shem Tov, mais c'est pas le Baal qui a écrit. C'est pas le Baal Shem Tov qui a écrit. Le seul truc qu'on a de sûr du Baal Shem Tov, on en avait parlé, c'était sa fameuse lettre qu'il envoie à son frère. Mais c'est pas, on n'a pas d'écrit véritablement du Baal Shem Tov. Pour ce qui est du Maguid, c'est extrêmement récent qu'on a retrouvé ce livre-là incroyable qui s'appelle Dovrut HaMagid, où en fait on a retrouvé les Kitveyad, les manuscrits du Maguide de Mezerich. Donc c'est assez incroyable, mais c'est très peu. Ce n'est qu'après que les élèves du Maguide, sous la dictée du Maguide lui-même, vont écrire des livres. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est fondamental, dans la situation qu'était le peuple juif à ce moment-là, d'avoir une trace. Alors d'abord, on a dit son premier élève, c'est son fils, Rabbi Avraham Amalach. Le problème de Rabbi Avraham Amalach, c'est qu'il refuse catégoriquement de prendre la succession de son père. C'est-à-dire qu'il refuse de devenir celui qui va guider les nouveaux chassidim. Pourquoi? Eh bien parce que Rabbi Avraham Amalach s'appelle comme ça parce qu'il décide de vivre une vie de prishut. C'est son chemin ba'avodat Hashem. On a dit chacun il doit avoir une mida, la mida de Rabbi Avraham Amalach, la prishut. Je m'éloigne. Tov, je m'éloigne de quoi? De kol divrei haolam hazeh, de tout ce qui peut être les contingences de ce monde, je suis uniquement en recherche de spiritualité. Ben oui, mais tu ne crées pas un mouvement avec ça. Ou alors c'est un mouvement de moine qui va se moiniser. Donc c'est pas du tout possible. Et il le sait. C'est pour ça que son petit-fils, et j'en parle pas aujourd'hui, mais son petit-fils ne va pas étudier chez lui. Parce que c'est son grand-père lui-même qui lui dit « N'étudie pas chez moi. C'est pas ça que tu as besoin. » Et donc son petit-fils, qui deviendra un des grands fondateurs d'une des plus grandes familles chassidiques qui s'appelle la chassidoute de Rougin, eh bien il n'étudiera pas chez son grand-père. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais qu'il saura bien Avraham Amalach, la prishut. Seulement, la prishut va lui permettre de développer son lien avec Dieu et il va lorsque, à la fin de sa vie, il revient dans le peuple juif, mettre en place un nouveau concept. Et ça, c'est un concept chassidique extrêmement important. Le concept du tzaddik. Qu'est-ce que nous dit la chassidoute? La chassidoute nous dit, tu sais pas étudier? Tu ne sais pas comment te rattacher à Dieu bien? Pas de problème. Parce que tu sais pas lire et tu sais pas écrire? Oui, parce qu'il faut enlever cette idée reçue que tous les juifs étaient toujours des érudits, étaient toujours des gens lettrés, et tous les juifs... Non. Non, non, les gars, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, en Europe de l'Est, l'écrasante majorité des juifs ne sait pas lire, ne sait pas écrire, sont des gens qui ont des travaux manuels et qui ne sont pas des grands érudits. D'accord? Donc, non, tout le monde ne connaissait pas du tout. Et donc, tu n'arrives pas à te lier à Dieu par la Torah ou par la Tfila parce que tu ne sais pas lire? Altidag. Ne t'inquiète pas, le tzaddik, lui, il sait. Attache-toi au tzaddik, et en cela, tu seras attaché aussi à Dieu. Vous sentez le danger? Vous le sentez venir, le danger? Que le tzaddik, il peut se prendre un peu pour Dieu? Nachon. Nachon, ça va être un énorme danger, ça va être l'une des choses qui va être extrêmement critiquée par le monde de ce qu'on va appeler les mitnagdim. Les opposants à la chassidoute. Quoi qu'il en soit, voilà le concept mis en place par Rabbi Avraham Hamalach, Hatzadik. Hatzanik ketsinor. Le tzadik devient un tuyau qui transmet la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors Rabbi Avraham Hamalach, on a dit, ne sera pas le successeur. Et en vérité, il n'y aura pas un seul successeur. Car nous allons parler maintenant des grands personnages Rabotai et Mamash, des grands personnages qui vont tout simplement faire ce que vous connaissez du monde chassidique. Et le premier d'entre eux, eh bien, c'est celui qui a reçu le rôle du Maguid de Meseritch, puisque Rabbi Avraham Amalach ne veut pas, eh bien, de guider les nouveaux chassidim en Russie, en Ukraine aujourd'hui, et ainsi de suite. Oui, parce que pour l'instant, la chassidoute, elle est plus en Ukraine et en Russie du Nord, plus qu'en Pologne. Elle viendra en Pologne un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, celui qui va donc être l'un des grands piliers de la chassidoute, vous le connaissez tous, il s'appelle Rabbi Shneor Zalman de Lahti. Rabbi Shneor, alors oui, entre parenthèses, j'ai oublié de le dire, mais quand on parle de Rabbi Avraham Amalach, est-ce qu'il a écrit quelque chose? Parce qu'on a dit que ça y est, il était temps d'écrire des choses. C'est chachouv. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'écrit pas, on n'écrit pas. Alors, là encore, puisqu'il n'a pas vraiment voulu, eh ben, c'est caché. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Chesed l'Avraham. Rien à voir avec le Chesed l'Avraham qu'on a déjà évoqué de Rabbi Avraham Azoulay, qui rapporte les traditions de Rabbi Avraham Amalach, mais on n'a pas vraiment de texte. Par contre, quand on arrive à Rabbi Shneor Zalman de Lahti, alors là, c'est une autre limonade. Évidemment, Rabbi Shneor Zalman de Lahti, plus connu sous le nom Haadmour HaZaken, premier fondateur de la chassidoute de Chabad. Eh oui, chassidoute Chabad, qui n'a pas entendu parler de la chassidoute Chabad? Les amis, la chassidoute Chabad, dans son essence, n'a rien à voir avec ce que vous connaissez de la chassidoute Chabad aujourd'hui. Je dis pas qu'elle a rien à voir avec les chassidim de Chabad. Je dis qu'elle a rien à voir avec ce que vous connaissez de la chassidoute Chabad. Parce que si je fais un sondage et que je demande aux gens, dis-moi, c'est quoi la chassidoute Chabad? Eh ben, les gens vont me dire, ah bah c'est des gens, ils ont beaucoup de Ahavat Israël et ils vont faire tchouva à plein de gens et ils sont pleins de simcha et il y a toujours un petit coup à boire et voilà. C'est très sympathique et c'est très vrai. Ils font énormément de Ahavat Israël, il y a toujours un petit coup à boire et ils font faire tchouva à plein de gens. Mais ce n'est absolument pas ça l'essence de la chassidoute Chabad. Car la chassidoute Chabad se différencie de toutes les autres chassidouyot. Oui, messieurs, dames. Je vais dire une phrase qui va hérisser le poil de beaucoup de chassidim, mais on va dire que j'ai le droit puisque je suis marié avec une ancienne Chassidat Chabad. Oui, depuis elle est redevenue juive, elle est revenue dans le judaïsme. Et évidemment, tout le monde ne se rappellera que de cette blague. Quoi qu'il en soit, la Chassidut Chabad est peut-être la moins chassidite de toutes les chassidouillotes. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Chassidut Chabad est la plus intellectuelle de toutes les chassidouillotes. Car toutes les chassidouillotes sont fondées sur ce qu'on appelle Chagat, c'est-à-dire Chesed, Gevura, Tiferet, les Sphirot Tartonot, qui parlent de l'émotion, du ressenti. Alors que Chabad, c'est Chochma, Bina, Vedat. C'est les Sphirot Elyonot qui sont en rapport avec l'intellect. Et quand vous lisez le livre central du Admour HaZaken, Sefer HaTanya, ou alors lorsque vous lisez son livre d'explication de l'essence de la Torah qui s'appelle l'Ikuté Torah, eh bien vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'un livre de ressenti, c'est un livre de Limoud, Zemamash Limoud. Et ceux qui me suivent, voilà, on essaye depuis presque 2 ans d'étudier ensemble le Tanya, on a pratiquement fini, il nous reste 5 chapitres, et on aura terminé le Tanya, c'est du Limoud Mamash. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la moins chassidite de tous. L'Admour HaZaken, lorsqu'il écrit le Tanya, il a un objectif. L'objectif est clairement établi. Les gens se posent plein de questions. Je veux écrire un livre qui pourra répondre à toutes les questions. Et c'est ce que voulait faire le Sefer HaTanya. Répondre à toutes les questions de Emouna que l'homme se pose dans sa relation avec Dieu. Donc voilà pourquoi l'Admour HaZaken a vraiment un chemin qui est très vivant. D'ailleurs, le comble du comble, c'est que le Tanya va être imprimé dans le fief des anti-chassidiques, à Vilna. À Vilna. Mais oui, mais il faut bien comprendre que l'Admour HaZaken habite dans le nord. C'est-à-dire qu'il est à la frontière avec la Lituanie. En d'autres termes, il a des contacts réels avec les Mitnagdim. Ce qui fait que lui ne peut pas se concentrer uniquement sur des chansons et sur des. Il est obligé d'avoir des véritables réponses de Torah. Et c'est pour ça que cette chassidoute-là, eh bien, va être une véritable chassidoute de Torah. Et je voudrais aller à la défense de cette chassidoute encore aujourd'hui. Parce que malheureusement, je ne parle pas du chassid Chabad, lui, qui est un vrai chassid Chabad, mais de la majorité des gens qui ne sont pas Chabad et qui connaissent Chabad, ils connaissent les miracles du Rabbi de Lubavitch, mais est-ce qu'ils connaissent sa Torah? Est-ce qu'ils ont déjà étudié Torah de Menachem, près de 100 volumes sur les enseignements de Torah du Rabbi de Lubavitch? Est-ce qu'ils ont lu les Likutei Sirot sur tous les enseignements Parashat HaShavua? Je crois qu'il y a 5 ou 6 Sirot par Parashat, qui sont des Mahamarim qui font 20 pages chacun sur la paraja. On parle d'une véritable Torah extrêmement profonde. Donc véritablement, la Chassidut Chabad, l'accent qui est mis, c'est la Chochma. Mais c'est d'ailleurs. Après le Admour HaZaken et la Chassidut Chabad, eh bien, arrivent deux personnages. Deux personnages, l'un ne va pas sans l'autre. Ils sont tous les deux frangins. Mais ils ont deux chemins complètement différents. Ben, Avodat Hashem. Ces deux frères s'appellent Rabbi Elimelech Milijansk, Rabbi Elimelech de Lijansk, et Reb Zusha Meshulam Mi'Anipoli. Ou alors, dans le jargon, Reb Meiler et Reb Zushe. Reb Meiler et Reb Zushe sont les héros de ce livre. Ha'achim HaKedoshim. Ha'achim HaKedoshim, Rabbi Zusha et Rabbi Elimelech. Deux personnages incroyables, mais deux chemins différents dans la Avodat Hashem. Reb Zusha de Anipoli va être cet homme qui va donner un message absolument incroyable. Ce message, il est très simple. Lorsque j'arriverai là-haut, après 120 ans, on ne me demandera pas est-ce que tu as réussi à être Moshe Rabbeinu? Mais par contre, on me demandera est-ce que tu as réussi à être Zusha? Reb Zusha de Anipoli, son grand enseignement va être de nous dire, mon ami, réalise-toi. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, réalise-toi. Et Reb Zusha a passé toute sa vie à se faire passer pour un mendiant. Vas-y, se faire passer, pas se faire passer. Mais il est, ça ne m'intéresse pas, Olamazé. Le minimum syndical, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'être de le plus simple possible. Parce que c'est la simplicité qui marque l'authenticité de ma relation à Dieu. Je vais vous poser une question. Et c'est la question que pose Reb Zusha de Anipoli. Est-ce que c'est important que le rabbin soit habillé avec des vêtements classe, avec une belle voiture, une belle montre, je sais pas moi, des beaux accessoires? Est-ce que ça met en avant sa Torah? Ben, très possible. C'est très possible que lorsque les gens y voient quelqu'un avec classe, alors ils se disent, ah ben celui-là, ça vaut le coup de l'écouter. Mais nous dit Reb Zusha de Anipoli, le problème c'est qu'à ce moment-là, tu écoutes la montre, tu écoutes la voiture, et tu écoutes pas forcément ce que la personne a à dire. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas avoir une très belle montre, une très belle voiture et aussi une très très grande Torah. C'est très possible. Mais le problème, c'est que des fois, eh ben, tu vas plus écouter la montre et la voiture que la Torah. Si bien que des fois, tu as des gens qui ont des accessoires magnifiques et quand ils ouvrent la bouche, c'est pas ouf. Ma relation avec Akadosh Baruch Hu, la plus authentique possible, c'est lorsque je suis le plus simple possible. Vous savez, il y a une série israélienne qui raconte l'histoire de Bachurei Yeshivot. Et parmi ces Bachurei Yeshivot, il y en a un, c'est genre le relige de la bande, le vrai tzoul, comme on dit. Tzadik veralo. Bekitsour, le mec de la yeshiva, la yeshiva. Et dans le sens du public, ça veut dire quoi? Voilà, tu vois. En tout cas, il y a un moment donné, il a un chidour et il veut se marier avec une fille qui est la fille d'un très très riche. Et le très très riche, il veut lui offrir une montre, comme ça se fait dans le montre Haredi, une véritable Rolex à 30 000 dollars. Et le Bachur Yeshiva lui dit, Toda Rabba Aval Lotoda, absolument pas, j'ai ma Casio depuis la Yeshiva Ktana, et c'est une Casio où il y a calculette aussi, donc moi j'ai besoin de savoir l'heure, ça me donne l'heure, et en plus je peux calculer aussi la taille de ma souka, donc c'est parfait. J'ai pas besoin de plus. Alors, on pourra toujours débattre, bien sûr. Est-ce que c'est Besséder ou c'est pas Besséder? Le Kohen Gadoul, le Gadoulinium. Alors, je sais pas ce que c'est le Kohen Gadoulinium, mais ça doit être un Kohen Gadol, Meod, Meod. Bien sûr qu'il avait des beaux habits, les Chavod ou le Tifaret. Nachon? Nachon? On te dit pas le contraire. Et d'ailleurs, il y a plein de Rabbanim Chassidim qui vont pas du tout aller dans ce chemin-là. Là, on est en train de parler du chemin de Reb Zusha. Sois toi-même, pas de fioritures, pas de choses, pas shoot, simple. Tamim tiyei Hashem Elohecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sois entier avec Dieu et aussi sois simple. Ah, qu'est-ce que tu vas t'exciter? Son frère, Rabbi Elimelech de Lijansk, lui, c'est un autre chemin dans la chassidoute. C'est quoi le chemin de Rabbi Elimelech? D'abord et avant tout, tu ne peux pas avoir une bonne relation avec Dieu si ta relation avec les autres, elle n'est pas au top. Et ça, c'est un projet mais tellement important, Rabotai. Nous dit Rabbi Elimelech de Lijansk, il a écrit une tfila qu'on doit dire avant la tfila. Oui, tfila chez Kodem la tfila. Parce qu'il te dit, dans la tfila, tu vas parler à Dieu. Il faut d'abord faire un petit cheshbon nefesh avant de parler à Dieu, c'est quelle est ma relation avec les autres. Et le point culminant de cette fille-là, c'est lorsqu'il dit, et ça a été mis en chanson par Avraham Fried, qui dit « Adéraba, ten belibenu, shenire kol echad ma'alat haverenu velo chesronam. » Fait qu'on arrive à voir le bien en notre prochain, ses bons côtés, et pas toujours ses mauvais côtés. C'est tellement facile de voir le mauvais côté d'autrui, mais ma relation avec Dieu, c'est ma relation avec mon prochain. Puisque « Ve'avta le'reacha kamocha » nous disent nos sages dans le Talmud, « Re'acha se'a kadosh baruch hu » Donc la façon dont je me comporte avec mon prochain, c'est aussi la façon dont je me comporte avec Dieu. Et ça, c'est un enseignement fondamental. Rabbi Elimelech de Lijansk, il va écrire un livre fondamental qui s'appelle... Ouais, ben, c'est ta caméra, dès que je bouge, elle bouge. Qu'est-ce que je fasse? C'est pas de ma faute. Il ne faut, faut pas que je bouge. Rabbi Elimelech de Lijansk va nous dire, il va écrire un livre fondamental qui s'appelle Hanoam Elimelech. Noam Elimelech, il est là. Alors, croyez pas que j'ai préparé tous les livres juste pour le cours. Enfin, vous pouvez penser ça. Mais il se trouve que c'est vraiment les livres qui sont à côté de moi parce que c'est ce que j'étudie. Voilà. Donc, le Noam Elimelech, il est là. Rabotai, c'est quoi ce livre? Oh là là, ça bouge beaucoup quand même! C'est quoi ce livre, le Noam Elimelech? Eh bien, c'est un commentaire d'abord de la Torah. Et c'est un commentaire de la Torah qui va placer l'homme en état de tzidkout. Pour Rabbi Elimelech de Lijansk, tu peux devenir tzaddik. C'est pas seulement le tzaddik qui devient un tzinor avec Dieu, toi, tu peux devenir tzaddik. Et donc, ce livre-là parle au tzaddik et il pense que n'importe qui peut devenir tzaddik. C'est-à-dire, Zelo Pachout. Zelo Pachout, il habite à Lijansk, qui est au sud-est de la Pologne. Voilà, un endroit assez incroyable. Quoi qu'il en soit, de Rabbi Elimelech de Lijansk et de Reb Zusha de Hanipoli vont sortir énormément de chassidoutes également. Par exemple, le plus connu, on va Gour, ça vient de là, Chance, ça vient de là, pour ne citer que les plus connus. Belz, ça vient de là également. Donc tout ça pour voilà, en rappelant que le rabbi de Belz a dit cette semaine qu'il fallait rentrer les mathématiques et l'anglais dans le programme d'études des jeunes chassidim. Ça se pose là. Bekitsour, donc après les frangins Kdoshim, nous avons un autre personnage. Un personnage qui est très particulier. Pourquoi très particulier? Parce que le Baal Shem Tov et le Maguide de Meseritch vont aller ensemble faire sa Brit Mila. Et cet homme-là, le Baal Shem Tov, dira au Maguide, je vais mourir, sache que ce bébé-là, il va arriver chez toi à un moment donné, ne l'oublie pas, parce que c'est lui qui sera véritablement ton successeur dans la chassidoute. Et qui est cet homme-là? Eh bien, cet homme-là, c'est celui qu'on appelle Sanegorav Shel Israël, l'avocat du peuple juif. Rabotai, je parle évidemment de Reb Levi Yitzhak Miberditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui naît en 1740. Reb Levi Yitzhak Miberditchev, je sais pas exactement quoi vous dire pour faire honneur à qui est Reb Levi Yitzhak. Reb Levi Yitzhak, c'est celui qui... Il y a plein d'histoires rigolotes comme ça sur Reb Levi Yitzhak Miberditchev, mais parmi ces histoires les rigolotes, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'il va voir, à un moment donné, il prie dans une synagogue, et il y a un groupe de juifs qui se dépêche, qui fait la tfila très très vite, en mode Ashkenaz plus plus. Genre en 10 minutes, ils ont terminé toute la tfila parce qu'ils doivent se dépêcher pour aller au marché de Leipzig. Et ils disent n'importe quoi. Ça veut dire que quand ils font la tfila, c'est ils mangent les mots. C'est pas du tout comme ça compris. Et lorsque Reb Levi Yitzhak, il leur demande, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, mais parce que nous, on est comme des bébés face à Akadosh Baruch Hu, qui est notre papa. Et vous savez, quand il y a un bébé qui parle, un étranger ne comprend pas. Mais David Altar, il comprend le bébétisme de son fils. Parce que c'est son fils. Et il sait quand, ça veut dire je veux manger. Et il sait qu'un bébé, ça veut dire je veux jouer. Et lui, il sait, lui, il comprend. Et bien, il dit, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, c'est notre papa. Lui, il comprend même quand on parle comme un bébé et qu'on mange les mots. Et c'est là que Reb Levi Yitzhak, il dit, tirez, Kama Kdoshim, Bnei Israël. Même quand ils font quelque chose qui n'est pas selon la halakha, ils pensent à leur lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, Reb Levi Yitzhak, ça va être ça, tout son chemin dans sa vie, apprendre le sroute qu'il peut y avoir chez chaque juif. Limoud sroute chez le koulam. Et c'est pour ça qu'il avait l'habitude, Erev Pessah, tous les Erev Pessah, il allait dans sa communauté à Berditchev et il demandait à chaque juif, mais genre 1 heure, 2 heures avant Pessah, t'aurais pas un peu de Hametz, s'il te plaît? J'ai besoin pour un petit truc. Et les juifs, ils lui répondaient, mais Rabbi, pas du tout. Pourquoi tu penses que j'ai du Hametz? J'ai pas de Hametz, Rav Shalom, j'ai plus de Hametz, ça y est, c'est Pessah dans 1 heure. Et une fois qu'il a fini de demander à, je sais pas, 5, 6 juifs du Hametz et qu'ils ont tous dit non, il va voir les goïms et il leur demandait des objets de contrebande complètement interdits. Des armes, de la drogue, je sais pas quoi. Et à chaque fois, les goïms de Berditchev, ils regardaient qu'il y avait personne à gauche, à droite, et ils disaient, bon, allez, viens, 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 c'est bon, je peux faire. Je peux te avoir ça. Et après, ils disaient, non, finalement, j'ai pas besoin, merci. Et ils se tournaient vers Dieu, ils disaient, Ribbono shel Olam, regarde tes enfants. Regarde tes enfants, ils gardent toute la Torah. Regarde les autres. Regarde comment c'est les tzadikim, le peuple juif. Reb Levi Yitzhak Meberditchev, il écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Kedushat Lévi. Kedushat Lévi. La Kedushat Lévi, dans la fin du Kedushat Lévi, eh bien, Reb Levi Yitzhak Meberditchev va écrire une, c'est une histoire, enfin, c'est pas une histoire, c'est une anaga. C'est une façon qu'il avait d'agir. Be Yom HaKippourim. Yom HaKippourim, à Kol Nidre, il avait l'habitude de venir avec une petite pile de papier et une autre grosse pile de papier. Et il commençait à prendre la petite pile de papier et il lisait. Sur chaque papier, il y avait marqué les fautes de la communauté. Et lui, il a fait comme ci, et lui, il a fait comme ça. Et une fois qu'il avait terminé de lire la petite pile de papier, qui était les fautes de la communauté, il se tournait les yeux vers le ciel et il disait, Ribbono shel Olam, je viens de lire les fautes de la communauté dans la petite pile. La grosse pile, c'est tes fautes à toi toute l'année que tu as fait contre nous. Tu veux que je commence à parler de quel Cosaque que tu as envoyé? Alors, Ribbono shel Olam, si toi tu acceptes de pardonner à notre petite pile de fautes, nous on accepte de pardonner à ta grande pile de fautes. Et on raconte qu'à ce moment-là, Ribbono shel Olam, il a ouvert le tribunal céleste et il a dit, Mazet tzarich liot, où sont les averot du peuple juif que je juge? C'est Rosh Hashanah. Et les malachim, ils ont dit, on n'a pas trouvé. C'est Reb Levi Yitzhak qui a volé toutes les averot du peuple juif. Ah, si Reb Levi Yitzhak il a volé les averot, pas de problème. Quand on vole, on doit rembourser. Mais comment on peut rembourser des averot? On peut pas. On n'a pas assez. Alors comment on fait quand quelqu'un il doit rembourser mais qu'il n'a pas assez? Eh bien, le Beit Din, il le vend comme esclave. Et donc, Dieu, il dit au Malachim, qui est prêt à prendre Reb Levi Yitzhak comme esclave? Mais personne. Il dit, il sera pas. Alors Dieu, il dit, alors moi, je le prends comme Eved Olam. Et c'est, d'après les Chassidim, ce à quoi on pense quand on dit dans la tfila de Rosh Hashanah, Yom Kippur, de Yom HaKippurim, les Kone Avadav Badin. Les Kone Avadav Badin, c'est Reb Levi Yitzhak de Berditchev, Sanegorav, chez Israël. Rabotai, parmi tous ces géants, on a dit, on a parlé de Bitoul, on a parlé de Tzadik, on a parlé de simplicité, on a parlé de la relation aux autres, de la Chochma, on a parlé d'être l'avocat du peuple juif. Tout ça, c'est les bases de la Chassidoute, Rabotai. Mais il y a un homme qu'on n'a pas évoqué, et c'est avec lui qu'on va terminer la première génération des Chassidim, parce que lui, il a fait quelque chose. Il a pris une décision. Décision d'ailleurs dictée par le Baal Shem Tov lui-même. Alors, ça a reçu l'appui du Maguide, mais dictée par le Baal Shem Tov lui-même. Qui est cette personne? Bien, les amis, nous terminons notre première génération des Chassidim avec un homme extraordinaire qui s'appelle Rebbe Nachem Mendel Mivitebsk. Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk. Rabotai, vous savez qui c'est? Non? Quand on vous dit Chassidout, vous pensez Pologne, vous pensez Ukraine, à la limite Russie. Reb Menachem Mendel Mivitebsk, en 1777, olé le Eretz Israël. Be mitzvat Baal Shem Tov ou mitzvat Magid. Et il prend avec lui 300 Chassidim. C'est ce qu'on appelle la Aliyah des Talmidei à Baal Shem Tov. Ils vont construire à Jérusalem la synagogue de la Tiferet Israël, qui est en reconstruction actuellement. Ils décident de venir tout simplement réaliser le projet de la Torah, de revenir en Eretz Israël. Eh oui, messieurs, dames. Il va aller à Jérusalem, ensuite il va aller à Tzfat. Au début, il arrive à Pkin et il s'installe à côté de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il y a énormément de problèmes avec les Arabes et les Turcs, et donc il décide de ne pas rester, et finalement il va s'installer à Tibériade. Il s'installe à Tveria, et c'est lui qui va lancer le Mifal de Tzedaka dans les Arei HaKodesh. C'est lui qui lance le projet de la Tzedaka à Jérusalem, Hebron, Tzfat et Tibériade. Rabbi Nachem Mendel Mevitebsk est enterré à Tibériade, et il a refusé complètement qu'on écrive sur sa tombe Rabbi. Il a dit, moi je suis Menachem Mendel Mevitebsk. Je suis le serviteur du peuple juif, serviteur de Dieu, serviteur de la terre d'Israël. Il signait ses lettres, ses livres, par Ashafel Behemet. Anikloum. Mais d'un autre côté, je sais très bien qui je suis. Mais je ne suis pas moi à mettre sur un piédestal. Je suis le serviteur. L'un des grands, grands, grands successeurs de Reb Menachem Mendel Mevitebsk, on y reviendra bien sûr beaucoup plus tard, s'appellera le Rav Kook. Et le Rav Kook signera lui aussi ses lettres par Eved Le'am Kadosh, serviteur d'un peuple saint. Les amis, voilà la première génération des chassidim qui vont lancer les premières cours chassidiques. Et si je devais résumer, eh bien, je dirais que la chassidoute dans sa première génération, c'est comment mettre en place ma relation avec Dieu en passant par ne pas se la péter, en passant par la simplicité et l'authenticité, en passant par le fait de ne pas se dénigrer, tu peux être tzaddik, en passant par le fait que le rôle du tzaddik, c'est la Torah, que la chochma, c'est ce qui va te permettre l'étude, de t'élever et de savoir que ma relation aux autres détermine ma relation à Dieu. Est-ce que c'est à ça qu'on pensait avant le cours, quand on pensait chassidoute? Eh bien, les amis, c'est de ça qu'on parle. La chassidoute, c'est, comment vous dire, c'est le judaïsme avec l'épice qui donne le goût à la vie en plus. Et je voudrais paraphraser en terminant un non-juif qui, après un séjour de 8 jours en Pologne, me dit, vous savez, monsieur, je ne me convertirai jamais au judaïsme. Mais à la rasidoute, peut-être. Et voilà, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse rouvrir vos micros. C'est parti pour les questions.
Juste avant de commencer, vous avez 2-3 questions que vous n'avez pas répondu pendant le cours. Question de Chani. Le danger, ce n'est pas vraiment que le tzaddik se prenne pour Dieu. Il est censé être tzaddik, donc anav. C'est plutôt que les gens simples prennent le tzaddik pour Dieu, non?
Tu as raison. Donc, c'est au tzaddik de leur dire non, 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 je ne suis pas Dieu.
Question de Véronique. Est-ce que la chassidoute ne vient que de l'Europe ou il n'y a pas de pays du Moyen-Orient?
Alors, encore une fois, à l'époque de la chassidoute, il se passe d'autres choses ailleurs. Et on va en parler, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais cette Torah-là qui vient du Baal Shem Tov, c'est l'Europe de l'Est. Ceci étant dit, il y a quand même un truc qui est très bizarre. Enfin, qui est très bizarre. Tous les chassidim se revendiquent du Or HaChaim HaKadosh. C'est ça, c'est incroyable. C'est-à-dire le seul Marocain qui a été intégré à tel point que à la Hiloula du Or HaChaim HaKadosh, tu vois que des mecs en Shtreimel. C'est fantastique. C'est-à-dire qu'il y avait un lien nafshi entre le Baal Shem Tov et le Or HaChaim HaKadosh. Le Baal Shem Tov parle du Or HaChaim HaKadosh comme étant sa Neshama Teoma. Donc, quelque part, bien la Torah du Or HaChaim qu'on a déjà évoquée eh bien, elle ruisselle également sur les chassidim. En l'occurrence, pour donner un exemple, il y a une phrase fantastique du Or HaChaim HaKadosh qui s'appelle Imayu bene Adam Margishim. Imayu bene Adam Margishim bemetikud ve'arevud betuv haTorah. Si les hommes ressentaient quelle est la douceur et l'influence que peut avoir la Torah, alors ils deviendraient fous et voudraient la poursuivre tous les jours, la Torah, parce qu'elle est tellement mieux que tout l'or et l'argent. Car la Torah comprend tous les bienfaits de ce monde. Ça, c'est les paroles du Or HaChaim HaKadosh. C'est le Rabbi de Gour lui-même qui va demander au Rav Hillel Palei, qui est un compositeur de chansons juives très très connu, qui est actuel, quoi. C'est lui, le Rabbi de Gour actuel, qui lui a demandé de mettre ces paroles du Or HaChaim HaKadosh en chanson. Et c'est l'une des chansons qui est les plus connues chez tous les chassidim. Donc voilà, bon, par exemple. Donc il y avait évidemment d'autres écoles de Torah Takabbalah ailleurs qu'en Europe de l'Est, mais la Chassidoute, c'est l'Europe de l'Est.
Alors, dernière question, puis après on laissera les élèves poser des questions à Rav. Dans ce cas, comment on fait quand le fait qu'on est dans la Torah casse nos relations avec nos proches? C'est soit Dieu, soit les autres. Donc on ne peut pas toujours être bien avec tout le monde.
Eh bien, c'est que ta Torah est mauvaise. Si ta Torah t'amène à la conclusion que c'est soit Dieu, soit les autres, change de Torah. Je peux
Voilà,
pas dire
j'ai.
mieux.
J'invite les élèves, si vous avez des questions, il reste 6-7 minutes au cours. Si vous avez des questions, je vous invite à allumer vos micros et à poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, j'ai une question
Oui, Arabe.
au Rav Ethan. Quand on parle d'avoir une bonne relation avec les autres, il s'agit précisément de qui? Qui sont les autres là? Est-ce que ce sont nos amis d'enfance? Est-ce
Ça,
que des collègues de classe?
je peux pas faire la liste de toutes les personnes avec qui tu es en contact, mais c'est ta relation, évidemment avec ta famille, évidemment avec tes proches, avec tes collègues, je sais pas, il n'y a pas de limite aux autres. C'est-à-dire,
Ben,
tu dois être quelqu'un.
s'ils ne sont pas du judaïsme et ils n'apprécient pas ton courant du judaïsme.
Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu dois être quelqu'un de bien avec les gens. Maintenant, si en face de toi, tu as un ennemi qui veut te tuer, ben, tu ne vas pas te laisser tuer. S'il y a quelqu'un qui te fait des choses négatives, tu dois te défendre. On n'est pas chrétien. C'est-à-dire que je ne vais pas tendre l'autre joue parce que quelqu'un il m'a mis une baffe. Mais de manière générale, ma relation avec autrui doit être une relation bonne et positive. Et donc, si je dois mettre en porte-à-faux mes parents, mes amis, ma famille et la Torah, parce que disons par exemple que moi j'ai fait teshuva, que mes parents mangent pas kasher et moi je mange kasher. Alors je décide de plus aller chez mes parents parce qu'ils mangent pas kasher. Et ma Torah est érodée. J'ai rien compris à la Torah.
Merci.
Voilà.
Même avec sa femme,
Quoi, si elle mange pas kasher et que toi tu manges kasher?
hein? Non,
Est-ce qu'il faut être bien avec sa femme? De toute façon, t'as pas le choix.
est-ce que d'entrée, il y a des questions? Il reste 5 minutes au cours avant de passer au cours du Rav. Cherki, je vois que Yochevet lève la main. Yochevet,
Oui, Rabbitan, est-ce qu'il y a une spécificité pour la femme dans Hasidut,
Est-ce que
dans
quoi?
cette partie?
J'ai pas entendu
Est-ce
la
qu'il y a une
question.
spécificité du rôle de la femme? Est-ce que finalement, c'est
C'est
pourquoi c'est
unisexe. C'est unisexe. La Torah, c'est ni pour l'homme ni pour la femme, c'est pour tout le monde. C'est pas que la chassidoute. Toute la Torah, c'est pour tout le monde.
Oui, mais encore là, dans la sensibilité particulière de chaque école dans la facilité
Il y a
prolongeant cette idée
largement la
de se
place pour.
focaliser sur une mitzvah. Il y a des mitzvahs qui sont peut-être plus spécifiques aux femmes. Est-ce
Non, mais
que
c'est nafran.
est-ce qu'il y a une place
C'est vrai
particulière aux femmes?
ce que vous dites, qu'il y a certaines ambiances, certaines midot, comme vous dites, qui sont plus féminines que masculines, mais l'un n'empêche pas l'autre. Là où il y a une prédominance du côté féminin, eh bien, on peut apprendre plein de choses des femmes. Et là, il y a une prédominance du côté masculin, eh ben, on apprendra des hommes, mais tout le monde doit apprendre de tout le monde. C'est-à-dire que peut-être que la dimension de Metikut ve'arevut haTorah, comme dit l'Or HaChaim HaKadosh, c'est une mida plus féminine, plus maternelle, et qu'on peut très bien apprendre de grands personnages féminins, mais c'est pas pour ça que c'est pas parce que c'est des midot plus féminines que l'homme il en est exclu. Et de la même façon, c'est pas parce qu'il y a des midot qui sont peut-être plus masculines que les femmes en sont exclues. La chassidoute, eh bien, parle tant aux hommes qu'aux femmes. Il n'y a aucun problème. Oui, David.
Alors, est-ce qu'on peut dire que les sionistes, entre guillemets, c'est la chassidoute du Rav Kook?
Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on verra quand on arrivera au Rav Kook, mais le Rav Kook, il est éduqué dans le monde Litaï, dans le monde Mitnaged, puisqu'il est l'élève de l'élève de l'élève de l'élève du Gaon de Vilna. Mais d'un autre côté, la maman du Rav Kook vient d'une famille Chabad. Et à tel point que la kippa du Rav Kook est faite avec un morceau de l'habit du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad. Donc chez le Rav Kook, c'est un petit peu compliqué. C'est ce qui va faire justement la grandeur du Rav Kook. C'est l'unité de la Torah. Mais, Slicha, il y a une des chassidouyot Eretz israélienne.
C'est double de Tel Aviv.
Alors, ce n'est pas la chassidoute de Tel Aviv, mais il y a un homme dont on va parler, mais plus tard, qui s'appelle Rabbi Yishayahu Shapira. Et Rabbi Yishayahu Shapira, comment te dire? Moi, je l'appelle le rabbin cow-boy. Car Rabbi Yishayahu Shapira s'appelle Ha'Admour HaChalutz. Il était le fils du rabbi de Pierre Setna, qui était une chassidoute en Pologne, et il décide de monter en Israël et il refuse de devenir le rabbi. C'est pour ça que son petit frère va devenir le rabbi de Pierre Setna, mais en arrivant en Israël, chasse le naturel, il revient au galop. Il veut pas être Admour, il n'empêche que tous les Shabbats, il y a des centaines de personnes autour de lui et il est sur son cheval et il assèche les marécages et il fait des villages et machin à Admour HaChalutz.
Mais ça, ta chère, on en
Voilà.
parlera dans la suite, si Dieu veut. Alors, Fison, Toda Rabba pour ce premier cours de l'Yeshiva de cette année.